dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier.
On a tous l'équipement au complet. Le squelette, les cavités de résonance, le diaphragme, l'air dans les poumons, les muscles abdominaux, le périnée, on a tout ça. Et en plus, on sait le faire fonctionner puisqu'on parle. Toute personne qui parle fait fonctionner son appareil vocal très bien. Comment ça se fait qu'au moment où on chante, ça peut se gripper? Ce n'est pas que de la mécanique, c'est du psychologique qui intervient là. Et j'entends que derrière, il y a une peur. Et si jamais je ne suis pas bien, qu'est-ce qu'elle va penser?
Ça te le ressent.
Ah oui. Bah parce que je l'ai vécu moi-même, tout simplement. Je pense quand même qu'un gros traumatisme d'enfance chez moi m'a fait travailler beaucoup psychologiquement sur moi-même. Donc j'ai vu toutes ces peurs, tous ces interdits, toutes ces choses-là, je les connais très bien, pour les avoir visitées déjà moi-même. C'est vous qui savez d'abord pourquoi vous vous interdisez quelque chose. Donc vous savez ce que vous avez mis en place par peur, par interdit, par tout ça, tout ça. Moi, je facilite l'ouverture de la porte.
Toutes ces petites choses de la société qui nous pèsent, quoi. C'est le moule, quoi. C'est la culture, c'est ça. C'est de ça dont il faut se débarrasser pour trouver à peu près les façons de chanter, de sortir une voix qui soit correcte, libre, libre.
Il existe des phrases qui ne nous quittent jamais, comme celle-ci par exemple.
Je n'aime pas ma voix.
Cette phrase-là, combien de fois l'avons-nous entendue? Combien de fois l'avons-nous dite sans même nous rendre compte qu'elle parlait de bien autre chose que d'un son? Car une voix n'est jamais seulement qu'une voix, c'est notamment un morceau de notre histoire.
Dès l'enfance, certains apprennent à parler doucement, à ne pas déranger, à ne pas chanter trop fort, à laisser les autres occuper l'espace. Alors, on obéit, on rabote les mots, on retient le souffle, on baisse la tête et, sans bruit, une partie de soi finit par se mettre en silence.
Et cette voix, avec ou sans silence, n'arrive pas à mentir et nous dévoile aux autres. Elle tremble lorsque le cœur hésite, elle s'éclaircit quand la joie revient, elle s'assombrit sous le poids des peurs, elle porte nos blessures bien avant que nous trouvions les mots pour les raconter. La voix est peut-être notre premier visage.
Alors, que se passe-t-il lorsqu'on ne la reconnaît plus? Lorsqu'elle devient une étrangère? Lorsqu'on finit par croire qu'elle est trop faible, trop banale, trop laide pour mériter d'être entendue.
Notre invitée, Marie-France de Bridier, musicienne, chanteuse, chef de chœur, pédagogue et formatrice, a consacré sa vie à cette question.
Mais avant d'aider les autres à retrouver leur voix, elle a dû retrouver la sienne.
Elle a connu les nodules, le silence imposé, le renoncement à une carrière lyrique, puis le courage de tout recommencer, autrement avec patience, avec obstination, avec cette conviction que le corps sait parfois ce que l'esprit ignore encore.
Pour Marie-France de Bridier, chanter, ce n'est pas que fabriquer des belles notes. Chanter, c'est remettre le souffle à sa juste place, c'est réconcilier le corps avec l'émotion, c'est découvrir qu'il existe une voix que l'on utilise, et une autre, plus profonde, plus libre, qui attend simplement qu'on lui fasse confiance. Cette voix, elle l'appelle la voix naturelle.
Marie-France de Bridier explique tout cela dans son livre. « J'aime pas ma voix » avec le « pas » barré. Et le sous-titre est « Bien dans sa voix, bien dans sa vie ». Un ouvrage publié et réédité par les éditions Gérezo, dans lequel elle ne promet ni miracle, ni recette, bien au contraire, elle vous invite à vous-même ouvrir vos portes, à créer vos propres chemins. Ce où apprendre à chanter devient aussi une manière d'apprendre à s'écouter et à s'accepter.
Pendant cette heure, Nous allons parler d'identité, de corps, d'émotion, de souffle, de silence, de confiance, de ce que le chant répare parfois sans faire de bruit.
Et peut-être découvrirons-nous qu'oser sa voix, ce n'est pas seulement apprendre à chanter. Oser sa voix
avec Marie-France de Bridier sur Dissonance.
Bonjour Marie-France de Bridier.
Bonjour Joseph et merci beaucoup de m'avoir invité.
D'où te vient cette passion pour la musique, pour la voix? Ça remonte à la petite enfance, ça remonte à autre chose?
Oui. Et c'est en me posant cette question que je me suis rendu compte à quel point ça remonte loin.
Ah.
C'est amusant, parce que finalement, quand on est pris par un métier, quelquefois on ne fait pas de lien. Donc en fait, oui, je pense que mes premiers souvenirs au niveau du chant, c'est 4 ans, 5 ans. Ma mère m'appelait son rossignol. J'ose pas le dire trop fort, mais ça veut dire que je chantais tout le temps, c'est tout. Ouais. Voilà. Et elle m'a inscrit à une chorale d'enfants. Je devais avoir 8 ans, quelque chose comme ça. Et ça, j'adorais ça. J'adorais chanter, j'adore chanter toujours en groupe, j'aime ça. Et j'aimais beaucoup et je chantais aussi à l'église. Je chantais, je me rappelle très bien maintenant, même à 8-9 ans, être dans la tribune à côté de l'orgue et chanter avec tout le monde là en latin. Je ne comprenais absolument rien de ce que je chantais, mais j'aimais beaucoup ça. Et puis, un peu plus tard, mes parents qui faisaient les salles des ventes pour ramener des meubles anciens, un jour, on ramenait à la maison un piano qui faisait partie d'un lot de meubles. On prenait les meubles, ben, il fallait prendre le piano aussi. Ça ne les arrangeait pas du tout, il n'y avait pas de place chez nous pour ça. Mais on avait un voisin juste en dessous qui avait beaucoup de place dans son appartement, qui n'y était pratiquement jamais, et qui laissait tout ouvert. Et qui nous a dit, vous mettez le piano chez moi. Et donc tous les midis, moi j'allais sur le piano.
Et tu connaissais la musique?
Eh bien pas du tout. Et donc c'est là où ta question sur les souvenirs, c'est incroyable, parce que mon père m'a appris sur Frère Jacques, et je me rappelle fort bien. Il m'a dit, tu vois, ben, les trois doigts, trois notes, hein, frère Jacques, ça monte, ça descend. Comme je chantais déjà, c'était facile. Il jouait aussi de la trompe de chasse, hein, personne n'est parfait, il aimait la chasse à cour. Et il m'a appris des airs de trompe de chasse qui sont aussi en général très simples, à les retrouver comme ça sur le clavier, avec une seule main. Lui n'était pas spécialement musicien, il chantait très faux d'ailleurs. Et à partir de là, bah, j'ai toutes les chansons que je faisais à la chorale, j'ai essayé de les retrouver, voilà. Donc c'est vraiment, c'est aussi un souvenir ancien, ce qui fait que, ensuite dans les fêtes de famille, il y avait des réunions de famille, premier de l'an, à Pâques, chez des vieilles tantes qui avaient un piano aussi très faux, aussi très, avec un son épouvantable, et bien là aussi je me remettais au piano, ce qui fait que cette vieille tante dit à mon père, bah, pourquoi vous ne lui faites pas faire de la musique ?
Avec quel âge?
Ben là, j'avais 9 ans. Et là, ben, c'est comme ça qu'à la rentrée de septembre d'après, mon père m'a accompagnée au conservatoire de Nevers, là où je vivais. Et c'est comme ça qu'on m'a inscrite au conservatoire pour commencer la musique.
C'est ainsi que tout a débuté alors. Et que tu t'es retrouvée pédagogue, chef de chœur, formatrice. Donc, il y a eu le conservatoire. Tu y es restée longtemps?
Ah ben oui. Le conservatoire, c'est assez long. Donc, j'ai commencé le violon et je crois que la première chose qui fait qu'aujourd'hui je suis tellement branchée sur les côtés psychologiques qu'il y a dans la voix ou dans le fait même de jouer d'un instrument de musique, c'est que le directeur du conservatoire m'a influencée pour que je choisisse le violon, alors que je voulais jouer du piano un peu comme tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il m'a dit, voilà, tu comprends, dans un orchestre, il y a un seul piano et il y avait un violon. Donc, il faut être bien meilleur pour être pris au piano. Il a donc, finalement, je me rends compte que j'ai intégré l'idée que je ne serais sans doute pas assez bonne pour être soliste. Et là, je crois que ça résonne pour beaucoup de gens, hein, quand les gens viennent me voir en me disant « je chante faux », par exemple. Mm-hmm. Ce ne sont que des croyances. Alors, j'ai fait du violon et puis, quand même, au bout de 6 ans de conservatoire, j'ai rajouté la flûte traversière, encore au conservatoire. Donc, mais j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup le solfège, j'aime énormément le solfège, c'est une matière que je trouve fantastique. Donc je pense que c'est simplement de la curiosité et puis, comme on dit, les hasards de la vie. Donc je suis allée vers les musiques traditionnelles, au violon, pour animer des bals par exemple. Et puis je suis allée vers la musique baroque avec ma flûte, et musique renaissance, médiévale. Ça s'est fait, j'ai envie de dire naturellement, mais ça ne veut rien dire. Ça s'est fait au fur et à mesure des envies aussi. J'ai fait partie d'un groupe vocal à Paris quand j'étais jeune, et on faisait un répertoire médiéval uniquement. J'ai adoré ce répertoire médiéval.
Et ça t'apportait quoi, cette passion des musiques baroques, renaissances, traditionnelles, par rapport au conservatoire? Une liberté?
Absolument. Absolument. Le conservatoire, c'est une excellente école pour avoir de la discipline, et il en faut pour faire de la musique. Mais ça reste classique. Alors aujourd'hui, bon, ce que je raconte là, c'était il y a 40 ans ou 50 ans, donc je ne sais pas, peut-être ça a changé. Mais c'est classique, c'est-à-dire qu'on va interpréter tout ce qui est de la période classique. Donc il y a des codes très précis. Évidemment, quand on est dans de la musique médiévale, ce n'est pas les mêmes codes. La musique renaissance, c'est autre chose. La musique baroque, c'est encore autre chose. Et la musique traditionnelle, encore autre chose. Donc évidemment, quand on touche à ces répertoires-là, on ouvre des portes. Donc je pense que ça m'a effectivement donné une sensation de liberté. Voilà.
Mais tu es quelqu'un qui aime bien les codes quand même, parce que tu n'as jamais eu envie de composer, de créer?
Ah, alors, ah, mais il me pose des questions géniales, parce que j'ai toujours été persuadée que je n'étais pas capable déjà de composer.
Et pourquoi?
Ah ben, c'est nos croyances. Hein.
Ouais. Comme pour la voix. On va
c'est comme pour la voix, tout est pareil. Et dernièrement, j'ai arrangé donc, des chansons à trois voix pour mes choristes, et ça marche. À mon grand étonnement, j'ai été capable de faire de l'arrangement, ce qui est déjà un pas vers la composition, on va dire. Et jamais je m'en étais cru capable. Parce que je pense que le conservatoire, effectivement, nous met dans des idées qu'il faut arriver à tel niveau pour pouvoir faire ça. Par exemple, ce qui me déplaisait au conservatoire quand j'avais 14-15 ans, c'est qu'on n'avait pas le droit de faire de la musique d'ensemble. Il fallait d'abord avoir un certain niveau pour pouvoir jouer avec les autres. Ça, c'est intolérable pour moi. Même avec un petit niveau, jouons avec mes autres, c'est justement comme ça qu'on va progresser aussi. Et donc, quand je suis arrivée à Paris pour continuer mes études à la fac, je me suis inscrite à l'École normale de musique de Paris, parce que là, il y avait obligation même d'aller à un cours d'ensemble. Et justement, ça me plaisait. Je ne me sens peut-être pas une âme de soliste, mais alors de chambriste, comme on dit. Enfin, voilà. Et là, je chantais en chœur, pas forcément en très gros chœur, mais en petit ensemble, en petit chœur, ça me plaît toujours autant.
Poser sa voix
avec Marie-France de Bridier sur dissonance.
Et j'ai lu qu'à 20 ans, tu avais connu un épisode compliqué qui t'a peut-être fait bifurquer dans ta voix.
Alors, j'ai commencé à prendre des cours de chant, classique, hein, lyrique bien sûr. Et puis, au bout de 3 ans, je crois, j'ai développé des nodules sur les cordes vocales. Ça se développe quand on utilise mal sa voix, quand on l'utilise en force. Alors, ça a mis un point d'arrêt quand même à ce que j'étais en train de lancer finalement dans ma vie. Et comme tu dis, ça m'a fait bifurquer probablement. Tout d'abord, il a fallu que je fasse une rééducation orthophonique pour utiliser ma voix correctement. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, ce qui est mauvais, ce qui amène au forçage vocal, ce qui est de l'ordre de la croyance et qui n'a rien de réel. Donc j'en ai appris beaucoup sur le fonctionnement purement mécanique de la voix. Mais ça ne suffit pas. Donc ça m'a permis de continuer à enseigner, puisque j'étais déjà prof. Je devais avoir 27, 28 ans déjà, même 30 ans. Et ça m'a permis d'enseigner sans abîmer la voix. Donc j'ai pu reprendre le travail finalement, ce que je ne pouvais plus faire. Mais je me suis rendu compte au bout de quelques années en voulant chanter vraiment que ça n'avait pas été aussi loin. Ça n'avait pas été jusqu'à me donner la technique correcte pour chanter vraiment et être efficace. Donc aujourd'hui, je dis vraiment le fonctionnement mécanique de la voix, ça ne suffit pas. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a tous l'équipement, hein. On a tous l'équipement au complet. Le squelette, les cavités de résonance, le diaphragme, l'air dans les poumons, les muscles abdominaux, le périnée, on a tout ça. Et en plus, on sait le faire fonctionner puisqu'on parle. Toute personne qui parle fait fonctionner son appareil vocal très bien. Comment ça se fait qu'au moment où on chante, ça peut se gripper? Ce n'est pas que de la mécanique, c'est du psychologique qui intervient là, automatiquement.
D'accord. On s'auto-censure, comme on disait tout à l'heure, c'est ça?
On s'auto-censure, et ça, quand on s'auto-censure, des fois on en a conscience. C'est-à-dire que les personnes vont me dire « moi je suis nulle, moi je chante pas bien », etc. Donc à la limite, au moins c'est quelque chose qui est dit. La personne a conscience de dire cette chose-là. Ce qui intervient le plus, ce sont les choses inconscientes, donc les peurs, les croyances et les interdits. Pour peut-être donner un exemple assez facile d'un interdit, j'ai donné des cours à une jeune femme de 26 ans qui composait des chansons, qui écrivait des textes très beaux, et qui voulait chanter ses chansons, et puis qui me disait « ma voix se bloque ». Alors on travaille, et puis un beau jour, sa voix ne se bloque plus. Tout va bien, pour moi en tout cas, tout va bien, la voix est belle, elle fait ce qu'elle veut, elle peut aller dans ses aigus, dans ses graves, elle va pouvoir chanter ses chansons. Et là, elle me répond « ah non, je ne peux pas chanter comme ça ». Alors là, je me dis « zut, c'est ennuyeux, moi je trouve ce que j'entends très bon, plutôt très bon ». Et je lui dis « pourquoi donc ?» Et elle me répond quelque chose qui est extraordinaire, « parce que toute ma famille est communiste ». Ah, Donc là dans ma tête, il y a « quel est le rapport entre le communisme et le cours de chant ?» Eh bien le rapport est en fait très très évident une fois qu'on le dit. C'est qu'elle avait l'impression de chanter, à ce moment-là, avec une voix de bourgeoise. C'est évident, hein. Donc voilà, comment les interdits peuvent nous bloquer. Donc c'est pas la voix qui se bloque, c'est pas la respiration qui marche pas, parce que les gens me disent « je respire pas, je ne sais pas respirer ». Il y a même des gens qui croient qu'ils ont moins d'air que les autres. Ben non, on a l'équipement au complet, mais on a un passé. J'entends vraiment dans une voix ce qui fait que ça ne marche pas. Ça, j'entends très très vite quand quelqu'un essaie de faire comme moi. Donc j'essaie de ne pas donner trop d'exemples, parce que sinon, par mimétisme, on a tendance à vouloir imiter le prof, et ce n'est pas une bonne idée. Mais parfois, il faut quand même donner l'exemple. Donc j'entends très vite quand quelqu'un essaie de faire comme moi, et j'entends que derrière, il y a une peur, et si jamais je ne suis pas bien, qu'est-ce qu'elle va penser?
Ça, tu le ressens?
Ah oui. Bah parce que je l'ai vécu moi-même, tout simplement. Je pense quand même qu'un gros traumatisme d'enfance chez moi m'a fait travailler beaucoup psychologiquement sur moi-même. Donc j'ai vu toutes ces peurs, tous ces interdits, toutes ces choses-là, je les connais très bien, pour les avoir visitées déjà moi-même. Donc je les entends. Je les entends aussi derrière la demande qui m'est faite « je veux apprendre à chanter ». À 45 ans, pourquoi est-ce qu'on veut apprendre à chanter? Ben, généralement, parce qu'on pense qu'on ne sait pas chanter.
Et toi, tu penses que tout le monde sait chanter? Ou peut chanter?
Eh oui, tout le monde sait chanter, puisque tout le monde sait parler. Ouais. Il n'y a qu'une personne qui est sourde, complètement. Ça va être très compliqué. Mais toute personne entendante, même malentendante, hein, parle. À partir du moment où on parle, on a l'appareil vocal qui fonctionne, on peut chanter. Peut-être qu'on ne sera pas le plus grand chanteur d'opéra, peut-être qu'on ne chantera pas la Reine de la Nuit, mais on va pouvoir chanter.
Je voudrais réentendre les hommes, là, parce que ça ne m'a pas convaincue.
Nos micros se glissent dans la salle de répétition de l'ensemble vocal, les voix de Cressel, une dizaine de choristes attentifs et la chef de chœur, Marie-France de Bridier.
Là, elle attend de son Dieu la sentence. Quand même, hein, c'est, à mon avis, elle en manque pas large.
En attendant de mon Dieu la sentence, je vis en espérance dans ta voix réconfort.
Oui.
Chanter juste, c'est chanter juste selon les codes actuels, européens, etc. On va dans une tribu d'Afrique, et j'imagine que notre grille de notes ne correspondrait pas. Et il dirait, mais vous chantez faux, madame.
Eh bien, curieusement, j'ai fait de la transcription musicale à la fac avec un ethnomusicologue qui ramenait des enregistrements faits chez des pygmées. Donc, ils n'ont pas la même, c'est ce que tu dis, la même échelle musicale dans la musique pygmée. Il va y avoir une gamme pentatonique, donc à 5 sons, alors que nous en avons 7 ou 12 sur le moment. Et jamais, ils faisaient écouter aux pygmées, par exemple, là-bas, des enregistrements de musique occidentale. Jamais ils n'ont dit « ça sonne faux ». Non. Comme quoi, quand on est bien dans son échelle vocale, dans son échelle musicale, quel que soit l'endroit du monde, on peut entendre que ce n'est pas la même. Mais on entend que ça marche.
Que ça marche.
Voilà. Par contre, dans cette tribu, quand il a amené une symphonie de Beethoven qui tape bien là, pa-pa-pa-pa, voilà, eh bien, ils ont dit, à la fin, ils ont dit, ah, c'est bien cette musique, ah, on aime beaucoup ta musique, c'est vraiment super. Pour dormir, elle est géniale. Donc, par contre, voilà, ce qu'on ressent d'une musique dépend de notre culture, ça c'est sûr.
Et qu'est-ce qui fait, Marie-France, c'est notre cerveau, peut-être qu'on se dit, tiens, là, ça ne va pas, là, il y a un couac, là, il y a une fausse note. C'est quoi on a été formé à n'entendre que les bons écarts entre les notes.
Bien sûr, on entend beaucoup, beaucoup de musique enregistrée qui, en général, est juste, on va dire. C'est-à-dire, voilà, on ne laisse pas passer des fausses notes, si possible. Donc, notre cerveau, qui est très intelligent, il a classé tout ça aussi. Hein. Donc, quand notre oreille entend, le cerveau lui dit oui, j'entends des fréquences et tout ça, c'est juste dans l'échelle musicale en question, tout ça marche bien. Mais la justesse d'une voix, c'est très compliqué. Parce qu'en réalité, quand nous chantons un texte, nous chantons des voyelles. Et les voyelles sont fabriquées par essentiellement la place de la langue dans la bouche. Et c'est cette place de la langue qui détermine l'utilisation de résonateurs qui se trouvent dans notre corps. Dans la poitrine, le sternum, et puis le crâne, beaucoup. Si je fais un « i », à la française surtout, parce que la langue française n'est pas la meilleure langue pour nous permettre de chanter, elle est très plate, elle a une petite boîte vocale assez étroite, sauf dans le sud, bien sûr. Et donc, quand je chante un « i », ma voix, si je fais « i », et si je fais « vous avez entendu que mon I a sonné différemment du A. Le I a développé beaucoup d'harmoniques aiguës. Donc quelqu'un qui n'a pas l'oreille très très entraînée croit que là j'ai fait deux notes dans un mouvement descendant. I-O. On croit que ça descend. C'était la même note. Ouais. Donc si on ne travaille pas sa voix en ayant conscience des voyelles comme ça, eh ben, on chante faux. C'est tout simple. On chante faux parce qu'à chaque I, on croit qu'on a chanté plus aigu que le A. Donc si jamais la mélodie était descendante, on va descendre plus bas ce I, et ainsi de suite.
Oser sa voix
avec Marie-France de Bridier sur Dissonance.
Et dans ton livre, tu parles de voix habituelle et de voix naturelle. Pourquoi tu fais cette distinction ?
Exactement pour la raison qu'on vient de donner. La voix habituelle, elle est basée sur nos habitudes de voix parlée. Donc si ma langue maternelle est le français, eh bien j'utilise peu d'harmoniques graves et peu d'harmoniques aiguës. Je suis dans une espèce de chose moyenne. En fonction de mon milieu socio-culturel, je vais mettre plus ou moins de nasalité. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un dire « Ben moi, je ne veux pas chanter comme ça, on dirait la voix de la poissonnière. » Ce qui veut dire qu'il y avait plus de nasalité et que dans certains milieux sociaux, c'est intolérable. Et dans d'autres, au contraire, on l'utilise beaucoup, beaucoup pour donner une voix plus sensuelle, etc. Donc, selon notre voix, la langue maternelle, notre voix est basée sur des habitudes de prononcer certains phonèmes et pas d'autres. Dans le français, on a des « un », des « en », des « on » qu'on n'a pas en italien, par exemple. Oui. Qu'on n'a pas en anglais. On a des « u » pointus qu'on n'a pas en roumain.
Ni en espagnol.
Ni en espagnol. Et puis, si on entend la langue russe, alors là, on entend une espèce de chose à l'arrière qui s'ouvre avec beaucoup de graves. Et dans des langues africaines aussi, souvent, on entend ça qui s'ouvre derrière. Et ça, nous, Français, on a besoin de l'ouvrir pour donner de la profondeur à notre voix, du grave. Donc, j'appelle la voix habituelle celle qu'on a développée depuis qu'on s'est parlé, à partir de la langue maternelle, et des codes sociaux de notre milieu socioculturel, les interdits, on ne parle pas comme ci, comme ça. Parfois, des choses encore plus gênantes, comme une dame qui venait et qui m'a expliqué que toute son enfance, il y avait la grand-mère à la maison. La grand-mère était malade, il ne fallait pas déranger. Donc toute son enfance, depuis l'âge de 2 ans, il ne fallait pas parler fort, il ne fallait pas crier, il ne fallait pas chanter, il ne fallait pas courir dans la maison. Et le jour où sa voix a commencé à prendre de l'ampleur, elle s'est fait peur.
Oui, elle transgressait un interdit.
Exactement. Ah, ouais. Exactement. Mmh. Donc moi, j'appelle la voix habituelle celle qui est posée sur tout ça, qui est placée sur tout ça. Les interdits, les croyances, les peurs, la langue maternelle. Et la voix naturelle, c'est celle que mon corps produit.
Avec les résonances.
Avec les résonateurs, le souffle, les cordes vocales que j'ai, le crâne que j'ai, le squelette que j'ai. Tout simplement, quand j'ouvre ces portes, que je me dis « Ah bon, bah, je vais être une poissonnière, ça ne pose pas de problème. » Parce que si je parle assez fort sur le marché et que je crie assez fort et que je mets assez de nasalité, on va m'entendre loin, je vais mieux vendre. Et tout est très bien. Je vais ouvrir la porte de la peur. Oh là là, si jamais on m'entend, qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Je vais ouvrir cette porte-là, etc., etc. Et au bout d'un moment, ben, j'aurai ce que j'appelle la voix naturelle, mon corps qui chante. C'est pas moi, mon ego, qui chante. C'est mon corps.
Mais en même temps, quand tu apprends aux gens à chanter avec leur voix naturelle, tu leur apprends à être eux-mêmes. Hein. Et ne pas être qu'une apparence en fonction du regard des autres, à exister, à développer une voix libre, à être bien dans leur peau.
Exactement, d'où le titre du livre, « Bien dans ma voix, bien dans ma vie ». On est quand même très bon. Mais c'est exactement ça, et pour l'expliquer encore mieux, je dirais, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps une émission, un podcast de la Philharmonie de Paris, où la personne parlait des personnes transgenres, et qui, évidemment, pour investir pleinement leur nouvelle identité, passe aussi par la voix, par le chant, développer sa voix, trouver cette voix, alors si elle est féminine, masculine, etc., comment je fais avec cette nouvelle voix, et pour la trouver vraiment et l'utiliser. Donc ça va vraiment très très loin, c'est vraiment toute mon identité qui s'exprime à ce moment-là. Et donc si je ne m'aime pas, ou bien plutôt si je n'aime pas ma voix, c'est que je ne m'aime pas, ou vice-versa. Et donc j'aime bien dire que aimer sa voix, c'est un petit pas vers s'aimer soi.
Est-ce que tu as des retours de gens avec qui tu travailles, soit en individuel, soit en cœur, sur ça, qui te disent « vous m'avez... » Libéré, c'est super ce que j'ai appris, pas qu'au niveau technique, ou même si on n'aime pas trop ce mot-là, mais...
Oui, c'est un peu tout le temps, donc là j'ai mis tous ces avis-là, toutes ces choses-là qui me tiennent à cœur, je les ai mis d'ailleurs sur mon site, et on peut les lire, parce que vraiment c'est formidable, c'est jamais les mêmes mots, mais moi j'ai vu des choses aussi, même si les gens ne l'ont pas dit, j'avais un élève de 40 ans qui est venu. Quand il m'a appelé au téléphone pour venir prendre des cours de chant, j'ai cru que c'était une femme. Mais il avait une voix très aiguë, une voix de femme. Et une voix de femme de 70 ans, un peu cassée, un peu comme ça. Et là, j'ouvre la porte et je vois apparaître un monsieur de 40 ans. Et je me dis, tiens, c'est pas la personne que j'ai eue au téléphone. Si, c'était bien lui. Ok. Et on commence à travailler. Et ce qui est formidable, c'est qu'au bout d'un mois et demi, un cours par semaine, c'est rien, un mois et demi, bah, il a commencé à investir sa voix de baryton. Et sa voix parlée a commencé à se transformer, tout simplement. J'ai rien dit, moi, sur la voix parlée. J'ai rien fait. Il est venu pour chanter, on chante. Et donc, comme il développe sa voix de baryton, eh bien, sa voix parlée prend des couleurs, se place aussi, les cordes vocales travaillent autrement, etc. Mais, au bout de 3 mois, une dame au téléphone m'appelle, une voix qui ressemble à celle que j'avais entendue au tout début, 70 ans, un petit peu cassée, et me dit « Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils ?»
C'est bien. Ah ouais, c'est super, tu l'as transformé alors.
Ah non, il s'est transformé,
tout seul.
Il s'est donné l'autorisation. Voilà. Et je pense vraiment que, consciemment ou pas, il avait besoin de se libérer de quelque chose. Et donc voilà, le chant est formidable parce que c'est très difficile ça, se libérer de sa mère en l'occurrence. Bon, comme je dis à ma fille, si tu as des problèmes, dis que c'est la faute de ta mère. Tu seras dans le vrai. C'est ouais. Très très difficile en fait. Alors l'avantage du chant, c'est que ça donne du plaisir. Ce qui fait que ça nous fait accepter toutes ces choses très difficiles, de laisser tomber des croyances qu'on a eues, des peurs, et se dire allez, je me lance, j'y vais. Donc l'avantage du chant, c'est ça, c'est que on va avoir du plaisir, on va avoir les autres en face qui nous renvoie quelque chose de différent, comme cette dame qui est venue à 60 ans, qui adorait la musique. C'était une mélomane qui connaissait bien plus toute la musique classique que moi. Elle entendait tout ce qui était faux au dixième de petit poil. Donc, elle chantait très faux, mais pour moi, c'était autre chose qui était à l'œuvre. Et elle me dit, au bout comme ça, de 2 mois, elle me dit « Oh, ben je suis allée à un anniversaire avec tout mon groupe de potes. » Et d'habitude, elle chantait très faux, et c'était le bout en train, justement. Et donc, elle avait l'étiquette « Moi, je fais rire tout le monde avec ma voix fausse. » Et là, ben, ça n'a pas été le cas. Elle a pu chanter « Joyeux anniversaire », juste. Et donc, elle me dit, ben, plusieurs de mes potes m'ont dit « Mais ben, qu'est-ce que t'as fait ?» Et elle a répondu très fière « Je prends des leçons. »
Ah, en fait, au début, j'avais une image, avant de te rencontrer, de quelqu'un qui a des clés, qui les donne aux gens pour qu'ils ouvrent leurs portes et qu'ils se libèrent. En fait, on a nos clés en nous, et on est capable nous-mêmes d'ouvrir ces portes, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et c'est en ça que tu es intéressante pour ça, quoi.
Ben, comme on dit aujourd'hui, c'est très à la mode, je suis facilitatrice.
Ben, je ne connaissais pas.
Et voilà. Mais c'est vrai que c'est très vrai, ça. Comme tu dis, c'est vous qui avez les clés. C'est vous qui savez d'abord pourquoi vous vous interdisez quelque chose. Mmh. Moi, je ne peux pas le savoir, et puis ça ne m'intéresse pas, parce que ce serait trop compliqué. Et je n'ai pas besoin de le savoir non plus. Donc, vous savez ce que vous avez mis en place par peur, par interdit, par tout ça. Moi, je facilite l'ouverture de la porte. Alors, des clés, c'est un bien grand mot. Je crois que juste, comme je disais tout à l'heure, je l'ai fait pour moi, ça, avant. Donc, je sais, que c'est très difficile. Je sais qu'il y a des moments où on ne voit pas la porte.
Oui, aussi, il faut trouver la porte.
C'est ça. Donc, moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, fais comme ça. Non, c'est d'abord la personne. Elle en trouve une porte, là, oui, je vais pouvoir lui permettre de l'ouvrir en grand. Donc, je me garde bien de dire à quelqu'un, fais comme ci, fais comme ça. Et au contraire, je dois capter, au moment où ça arrive, le repère que la personne a à l'intérieur. Et ce n'est pas forcément le même que le mien. Ça me rappelle une jeune femme formidable aussi, qui un jour, elle me fait des vocalises avec une voix magnifique, merveilleuse, donc je l'arrête et je lui dis « À quoi elle ressemble pour toi, ta voix, là, à ce moment-là » Et elle cherche l'image qui lui vient et elle me dit « On dirait de la poire. » Jamais j'aurais pu lui dire mieux. Jamais j'aurais eu l'idée de lui dire « Fais comme si ta voix était de la poire. » Parce que, après, je lui ai fait décrire cette poire en long, en large et en travers. Elle est jaune, elle est verte, elle est grosse, elle est ronde, elle est plutôt effilée comme une conférence, elle est comme une poire Williams, elle est comment, cette poire ? Eh bien, elle était fondante dans la bouche et elle avait des petits grains. Vous savez, comme dans la poire, a souvent des petits grains. Je lui ai fait décrire vraiment toute cette poire et à la fin, je lui ai dit, ça, c'est ton repère. Quand ta voix se bloque, tu ne sais plus comment chanter, tu dis à ton cerveau, rappelle-toi ma poire, la voix comme la poire. Et là, le cerveau qui est intelligent, il fait des liens. Et il redonne dans le corps le souffle qui correspond à la poire. Le diaphragme qui se place au bon endroit pour la poire, le dos qui se redresse pour la poire, la tête qui se réaligne et on a à nouveau la jolie voix.
Facilitatrice, j'adore ce mot que je viens de découvrir et je le préfère à celui de coach et de coaching et tout ça que je déteste.
Oui, mais en même temps, facilitatrice, c'est très développement personnel et je donne quand même des cours de chant. Alors, je ne sais pas trop quoi dire, moi. Donc, j'ai mis coach vocal parce que c'est très à la mode depuis 10 ans, mais je pense que ça va changer. Si quelqu'un me donne un meilleur mot, parce que facilitatrice, ça ne fait pas sérieux en même temps, quelque part.
Ça ne fait pas
très sérieux et du coup, ça ne représente pas non plus toute la formation que j'ai derrière.
Oui,
alors, c'est compliqué. J'avoue que les noms sont très compliqués. Et professeur de chant, c'est quand même très réducteur par rapport à ce que je propose.
Oui.
Donc, pour le moment, on est sur coach, hein, mais vous savez que coach, d'ailleurs, c'est un mot français.
Hein. Non, dis-nous.
Avec la diphtongue coach, ça vient du 12e siècle.
D'accord.
C'est le cocher, celui qui dirige et oui, qui conduit. Donc, j'aime bien. Alors, peut-être, je vais mettre la prochaine fois cocher vocal. Parce que coach et coacher quelqu'un, c'est français.
Dans ta cire, douce bergère.
Oser sa voix
avec Marie-France de Bridier sur Dissonance.
Alors, tu es chef de chœur aussi, Marie-France, et donc formatrice, on l'a vu. Et la question que je voulais te poser, c'est dans un chœur, comment est-ce que tu fais pour révéler chaque voix sans effacer la personnalité de chaque individu ?
Eh bien, je commence par dire le contraire de ce qui se dit souvent. Je dis, vous avez le droit de chanter chacun avec votre voix. Vous avez le droit d'être plus fort que votre voisin. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas un chef de chœur qui dit, je ne veux entendre qu'une seule voix.
Mais d'abord, tu connais toutes ces voix individuelles parce que tu travailles en amont avec eux.
Alors, dans les voix de Crécelle, oui.
Ça a été alors, les voix de Crécelle, c'est une chorale dont tu t'occupes dans le sud d'Aveyron.
Exactement. À Crécelle. Et la demande de ce petit groupe de 12 choristes m'a beaucoup plu parce qu'ils m'ont dit, voilà, on cherche un chef de chœur et quelqu'un qui nous donne des cours de chant.
D'accord.
Alors évidemment, pour moi, c'est parfait. Parce que chacun va pouvoir libérer ses petites zones d'ombre, ouvrir ses portes, comme on disait. Et ça va bonifier chaque voix individuellement, l'amplifier, lui donner de l'expression. Et donc le groupe vocal aura un son global, beaucoup plus intéressant si les 12 voix sont travaillées que si elles ne le sont pas. Et donc j'encourage mes choristes, évidemment, en cours de chant individuel, à donner tout ce qu'ils ont et à découvrir tout ce qu'ils ont, et en groupe. Parfois, ça arrive, des vieux réflexes de choriste, de dire à son voisin ou à sa voisine « Ah, tu chantes un peu trop fort, moi je m'entends plus » ou je sais pas quoi, et là je réponds « Non, non, non !» Au pire, on peut changer de place. Je comprends, on peut être gêné par telle ou telle voix, on change de place, ça c'est pas gênant. Mais on ne demande pas à l'autre de se restreindre, de se limiter, c'est tout le contraire. On va demander à tout le monde de prendre sa place, une vraie place, une grande place. Et quand on fait ça, c'est beaucoup plus joyeux.
Comment tu fais pour arriver à partir de voix multiples et différentes, arriver à créer un son, un univers sonore mais unique quoi ? Comment tu fais ?
Je fais preuve d'autorité.
Mais c'est de l'autorité constructive.
C'est là...
Parce qu'il y a de l'autorité malsaine.
On est bien d'accord. Donc, j'essaye d'avoir une autorité à la fois bienveillante et compétente aussi, si possible. C'est important, parce que sinon, évidemment, ça ne marche pas. Mais c'est ce que l'on appelle la direction artistique, je crois, plutôt.
C'est toi qui vas donner une couleur, alors, à ce groupe.
Alors, la couleur est donnée par l'ensemble des couleurs vocales de mes choristes et aussi par quelques instructions. C'est évident que si à un moment donné, je dis, voilà, dans ce texte, vous voyez, ça parle de la mort, donc je veux vous sentir un peu selon ce que vous préférez, en révolte contre la mort. Moi, j'aime pas, j'ai horreur de la mort. Je déteste que les gens que j'aime meurent. Si je me dis, je suis en train de chanter le mot mort, ça y est, j'ai tout de suite un timbre de voix. Une couleur. Et dans les choristes, tout le monde a une appréhension de la mort, chacun à sa façon, mais c'est rare les gens qui me disent « Ouais, j'adore la mort, c'est chouette la mort ». Donc, automatiquement, on va avoir un son commun qui sera autour de ce mot et qui va donner la couleur du couplet en question, par exemple. Et c'est là, à ce moment-là, le texte qui porte la couleur vocale. Moi, je fais que expliquer ou dire simplement des choses très simples aux choristes. On se dit le texte déjà une fois en parlant, puis on voit de quoi il cause. Mmh. Et là, les émotions propres à chacun se mettent à vivre à l'intérieur de chaque personne. Et c'est cette émotion aussi qui fait qu'on utilise telle ou telle couleur de sa voix. Pour pouvoir utiliser des couleurs variées de sa voix, il faut prendre des cours de chant. Parce que c'est là qu'on apprend à utiliser les caisses de résonance, toujours pareil, et ce sont ces caisses de résonance qui nous donnent de l'aigu, du grave, et donc on va moduler avec cet aigu, ce grave, au niveau de l'émotion. Je dis, il faut prendre des cours de chant. J'ai entendu dans ma vie, un jour, à la fac, une personne qui est venue en stage, qui ne faisait pas d'études musicales, qui ne lisait pas la musique, alors que nous étions tous très, très compétents, et qui a chanté à côté de moi, et tout par cœur, sur des choses extrêmement difficiles, à 7 ou 8 voix. Elle entendait la phrase musicale. Une fois, elle la savait, j'étais verte. Oui. Et c'était absolument magnifique. Alors bon, voilà, ça existe. Et moi qui travaillais énormément, je me suis dit, mais pourquoi pas moi ?
Voilà.
Le monde est trop injuste.
Tu es sur plusieurs chorales que tu diriges en même temps ou non ? Comment tu fonctionnes ?
Donc, j'ai dirigé diverses chorales. depuis 40 ans. Des chorales, j'ai jamais dirigé plus que 40 ou 50 personnes, sauf oui, une fois où il y avait beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup dirigé les chorales d'enfants parce que j'aime beaucoup ça. Et donc, quand on m'a fait diriger 3 ou 4 écoles ensemble, on arrive à 100 gamins, voilà. Je peux le faire, mais ce n'est pas ma tasse de thé. J'aime mieux les petits groupes. Donc, j'ai dirigé plutôt des chorales de 30 personnes, 12, des ensembles vocaux avec mes propres élèves. Ils étaient 8, 9. Plutôt des choses comme ça. C'est un répertoire particulier que j'aime bien. Le répertoire, par exemple, uniquement voix de femme ou uniquement voix d'homme. Ça s'appelle le répertoire à voix égale. J'aime beaucoup ce répertoire qui demande une écriture musicale plus resserrée dans les intervalles. J'aime bien ça.
Eh bien, Marie-France m'apporte beaucoup dans le sens où elle parle de ce qui est vrai, c'est-à-dire de, non pas de ce qu'on est supposé ressentir, mais c'est vraiment ce qui se passe en nous. Y compris les chaînes musculaires qui réagissent, etc., les résonances et tout ça. Et donc, ça me permet de beaucoup mieux comprendre ce qui arrive, et donc d'arriver peut-être un jour, je pense, à maîtriser mieux, parce que bien sûr, il faut le temps de l'intégrer, mais en tout cas, ce qu'elle nous dit, c'est pertinent, c'est vrai, on le vérifie, ça produit des effets. Et dans le groupe, évidemment, je ne sais pas, elle est juste, quoi, voilà.
Quel est ton ressenti à la fin d'un spectacle, d'un concert, pardon, d'une chorale que tu diriges? Tu es contente parce que le public est debout en liesse et t'applaudit, etc. Ou alors tu es contente parce que tu as vu tes choristes qui ont fait des progrès, qui même si ce n'était pas ça, ils se sont donnés à fond?
Oui, c'est exactement ça. En fait, je suis contente de les voir. Au moment où c'est terminé, et à chaque fois que le public applaudit, je les vois. Je vois qu'ils se détendent, je vois qu'ils sont heureux, ils sourient. Donc c'est ça qui me fait vraiment plaisir. Je suis un peu émerveillée à ce moment-là comme un enfant qui découvre un cadeau. Mon petit-fils, il ouvre le cadeau, et là, même si ça ne l'intéresse pas, il fait... Il adore ça. Donc, je sais qu'il y a eu des choses, je sais qu'il y a encore du travail à faire, mais le plaisir, voilà, le fait que les gens sont contents d'eux, ça me suffit. Je suis une fille très simple. Voilà, ça me suffit. Et quand je me retourne et qu'on salue tous et que le public nous applaudit et que tout le monde a un grand sourire en face de moi, je suis contente aussi. Je me dis, voilà, c'est la vie, ça. Un groupe de gens qui sont dans la même pièce à ce moment-là et qui sont tous contents en même temps, c'est quand même bien. Hein.
Marie-France, déjà je trouve que dans l'interprétation des chants, il y a une grande finesse sur les nuances, sur la diction. Il y a vraiment quelque chose qui est très précis et elle sait vraiment ce qu'elle veut. Et moi j'aime bien parce que je trouve que ça ne fait pas souvent, sauf quand on se laisse aller. Un chœur où toutes les voix sont au même niveau, où on entend une espèce de masse comme ça. Je trouve qu'elle nous fait beaucoup travailler, aller chercher différentes façons de chanter et aussi bien dire les mots, bien savoir ce qu'on dit, quoi. Et après, avec elle, on a travaillé sur nos voix, donc ça aussi c'est...
Voilà, il y a une spécificité, elle vous prend individuellement, elle travaille sur vos voix.
Elle n'a pas peur, Marie-France, de déconstruire les habitudes pour aller vers ce qu'elle a trouvé. Après, pour moi, tout peut être valable, mais le fait de travailler avec différents chefs de chœur, ça nous amène à découvrir d'autres couleurs de notre voix, d'autres endroits de résonance. Et donc, moi, j'avais beaucoup travaillé avec une chef de chœur qui travaillait beaucoup à partir des émotions et de ce qu'on ressent. Ça m'avait débloqué plein de choses au niveau des résonances, parce que justement, on résonne avec soi-même, avec nos émotions du moment. Et Marie-France travaille un peu comme ça aussi, mais d'une façon... on va dire moins sur le développement personnel et plus sur qu'est-ce que je veux raconter de moi, qu'est-ce que je veux être quand je chante, qui je suis quand je chante. Elle nous demande souvent, est-ce que c'est toi là? Et t'as quel âge? Parce que souvent les femmes, surtout quand on va en chantant les voix de soprano, on chante un peu avec des voix de petite fille. Et moi, elle me demande, t'as quel âge? Donc j'ai 50 ans. Et est-ce que là, tu chantes avec une voix de 50 ans? Non. Donc comment tu vas trouver tes résonateurs pour aller assumer ta voix de femme mûre? Ce qui n'empêche pas du tout d'aller dans les aigus, mais d'aller faire résonner d'autres endroits dans le corps. Donc ça, c'est très riche et ça demanderait beaucoup de travail. Moi, personnellement, je n'ai pas assez travaillé à côté dans l'année pour profiter pleinement. Je le sentais bien, je n'avais pas la disponibilité. Mais je pense qu'en travaillant vraiment régulièrement tout ce qu'elle nous donne, on peut développer des choses incroyables pour nous-mêmes.
Sa technique à elle est particulière. Et ben, c'est, comment dirais-je, c'est de débarrasser la voix de tout ce qui est, de tout ce qui l'encombre et qui sont des, on dirait un surmoi, quoi. C'est quelque chose comme ça. Et puis tout un tas de gestes qui sont là, qui nous embêtent, quoi, qui font qu'on ne peut pas chanter comme on veut parce qu'on nous a dit toujours non, bah, faut pas chanter comme ça. Donc, toutes ces petites choses de la société qui nous pèsent, quoi. C'est le moule, quoi. C'est la culture, c'est ça. C'est de ça dont il faut se débarrasser pour trouver à peu près les façons de chanter, de sortir une voix qui soit correcte, libre, libre.
Comment tu vois ton futur ? Est-ce que tu as un projet que tu aimerais mener à cœur et sur lequel tu voudrais travailler ?
Ah oui, alors ça, c'est vraiment très, très bien. Parce que l'avenir, c'est travailler un petit peu moins, parce que, voilà, j'ai plus 35 ans, donc déjà ça. Et ben, à la suite de ce livre-là, j'ai envie d'en écrire un vraiment sur le chant. Vraiment pour expliquer que la technique vocale, pour moi, pure et mécanique, ça n'existe pas. Ou du moins, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est plus difficile à faire parce qu'il va falloir que j'écrive des exercices vraiment qui vont parler à des chanteurs. Et bon, voilà, donc là, je planche là-dessus en ce moment et j'aimerais vraiment mener à bien ce livre-là. Donc mon avenir, je le vois à moitié écriture, à moitié chanté et beaucoup plus de chant aussi pour moi maintenant. Je crois que moi aussi, je m'étais mis des interdits, hein, comme tout le monde.
Est-ce que tu chantes ? J'ai vu passer un concert que tu as donné récemment à Montpellier.
Et voilà. Et accessoirement, j'ai beaucoup chanté et j'ai arrêté quand je me suis mise à donner des cours de chant, bêtement, pour des raisons idiotes. Et là, je reprends, parce qu'il faut toujours une oreille extérieure, sinon on fait des bêtises, je reprends des cours de chant pour moi, des cours de chant lyrique, avec grand bonheur. Et donc, dans l'avenir, j'espère bien rechanter avec d'autres professionnels, comme j'ai eu fait il y a longtemps. A cappella, j'aime bien, à 4 ou 5 voix ou 6 voix, ou accompagné avec des instruments, sur des répertoires de musique ancienne, mais pas que. Voilà l'avenir.
Marie-France, après toutes ces années de recherche, d'enseignement et de concerts, si tu pouvais transmettre une seule conviction à quelqu'un qui dit aujourd'hui « je déteste ma voix », qu'est-ce que tu lui répondrais, même si on a un petit peu quelques éléments de réponse dans l'émission ?
Alors, je répondrais tout de suite « commence à chanter », pas dans le but de la performance. Ça, ça bloque tout de suite. Et surtout en te disant, je ne dois pas imiter une star de la chanson ou un prof ou n'importe qui. Ça, ce n'est pas bon. Parce que dès lors qu'on prend un cours de chant, si ce cours de chant n'est pas trop stylistique, hein, faut pas aller voir quelqu'un qui dit « je vais vous apprendre l'opéra » ou « je vais vous apprendre à chanter exactement comme il faut en jazz » ou non. Quelqu'un qui va apprendre à découvrir l'instrument voix, simplement, comme je propose. Et je dirais à cette personne « attends-toi à des surprises ». Attends-toi à entendre dans ta voix un truc que tu n'as jamais entendu et tu ne croyais pas l'avoir. Attends-toi peut-être, comme cette dame, à te faire peur parce que, oh là là, mais c'est puissant ce truc-là.
Attends-toi à une voix peut-être très aiguë, très tranchante. Eh bien oui, le tranchant, c'est ce qui permet de chanter juste. On tranche une note par rapport à une autre note, et donc faut pas avoir peur du tranchant. Attends-toi à vraiment, voilà, de la surprise, et c'est plutôt joyeux. Parce que si on le prend comme ça, on se dit, oh là là, quand même, je suis capable de faire ça. Oh là là, mais ce que je viens de faire, c'est carrément incroyable. Voilà. Et laisse venir. Voilà, la voix, faut la laisser faire. Faut pas la brutaliser. Et faut goûter la nouveauté. Et que, au fur et à mesure, automatiquement, si on y va avec cette ouverture d'esprit, on ne cherche pas la performance, on ne se juge pas en permanence non plus, ça c'est mauvais, eh bien, on va aimer un petit peu plus sa voix à chaque fois.
Merci beaucoup, Marie-France, pour ce moment passionnant.
Merci infiniment, Joseph, de ton invitation.
Pour retrouver toute l'actualité de Marie-France de Bridier, vous pouvez consulter son site internet voixnaturelletoutausingulier.com. A noter qu'une deuxième version de son premier livre « J'aime pas ma voix », publié sous le nom de Marie-France Duizit, est en cours de réédition et qu'il paraîtra très vite avec un autre titre non encore décidé à ce jour sous la signature de Marie-France de Bridier. Et un immense merci aux choristes de l'ensemble vocal aveyronnais Les Voix de Crécelle, dont les interprétations illustrent cette émission et font écho aux propos de Marie-France de Bridier. Salut
et fraternité.